affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
La Loire est une mer. Entendez par là une mer nourricière qui, au fil de l'eau, dans le temps et l'espace, a donné naissance à une véritable civilisation. On lui doit le vin de Chinon, que goûte et Rabelais. On lui doit ses châteaux taillés dans la pierre jaune du Tuffeau, qui font du Val-de-Loire une des plus prestigieuses régions de France. On lui doit aussi des villes et des abbayes qui ont fleuri tout au long du fleuve, vivant au rythme des bateaux qui charriaient les vins, poissons, salaisons, céréales, mais aussi le charbon, le sel, les faïences, les métaux. Ronsard, du Bellay, Madame de Sévigné, Balzac, on dit la douceur de son climat, la beauté ou la force de ses eaux. Des peintres de la Loire ont montré la flamboyance ou la tendresse des Lumières. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cette région du Val-de-Loire qui a surmonté la conquête romaine, les invasions vikings, les guerres de religion, de Vendée, l'occupation, mais qui reste avant tout l'un des joyaux de la Renaissance et le cœur d'une identité toujours vivante, loin d'un folklore muséifié. Pour nous servir de guide, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Daniel Salnave de l'Académie française qui vient de publier un dictionnaire amoureux de la Loire, publié chez Plon. Daniel Salnave, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous offrez donc ce magnifique dictionnaire qui fait près de 1000 pages, qui va de la lettre A comme Ablette à Z comme Jean Zé, donc ce ministre du Front Populaire qui avait été assassiné durant l'occupation. Mais au fil de l'abécédaire, on s'aperçoit que le dictionnaire recouvre absolument toutes les nuances de l'identité de la Loire. Je ne dis pas le mot ligérien parce que je sais que vous ne l'aimez pas. Alors nous y reviendrons. Mais l'histoire, la géographie, la sociologie, la littérature, l'architecture, l'art de vivre, ce sont des milliers d'heures de travail. Alors comment est né cet ouvrage ?
Oui, j'ajouterais par rapport à votre chapeau, comme on dit, qui est parfaitement juste, que je dépasse en fond le Val-de-Loire parce que je prends vraiment la Loire à sa source, c'est-à-dire dans les Cévennes, d'où on pourrait voir la Méditerranée pratiquement, et je l'accompagne tout le long de ce trajet étrange, puisqu'à un moment elle fait un coude, elle décide de ne pas aller se jeter en fleurs, mais de se jeter à Nantes, et à ce moment-là elle entre dans le Val-de-Loire. Donc il y a vraiment plusieurs Loires, et je crois que au fond, j'ai choisi d'abord, pourquoi je l'ai choisi ? C'est une commande indirectement, c'est-à-dire que l'éditeur souhaitait que je participe à cette collection, et moi aussi, et ensemble, nous déjeunions, on m'a montré une liste de mots à faire. Et tout d'un coup, on est arrivé à Loire. Et là, j'ai fait comme dans les jeux télévisés, j'ai fait avec mes mains, je prends. Je prends parce que, mais quelle innocence ! Je prends me disant, mais oui, ce sera mes souvenirs d'enfance, et puis j'irai dans des endroits que je ne connais pas. Bon, enfin, tout ça, ce sera au fond facile. Ça a été facile, plaisant, mais un travail énorme.
On sent que c'est plaisant, oui.
Mais oui, alors, on sent tout le temps plaisant, mais un travail énorme. Mais, s'il n'y avait pas l'Internet, il faut 15 ans pour faire ce livre. S'il y a l'Internet et la bibliothèque de l'Institut, qui se complètent admirablement, j'ai mis 2 ans, disons, en gros.
D'accord.
Avec des périodes d'une très grande densité, des journées entières au bord de la Loire, non pas de la Loire visible, mais de la Loire invisible, de la Loire qui était dans mon cœur, dans les livres, dans notre histoire, dans notre langue.
Alors, vous avez aussi cet avantage pour écrire ce dictionnaire d'être vous-même originaire du Val-de-Loire. Vous êtes né à Savenières, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je suis né en fait à Angers, mais ça, c'est le problème de clinique, etc. Mais en fait, j'ai vécu à Savenières. Mes parents étaient instituteurs à Savenières. Et ils étaient nés dans la région qu'ils aimaient beaucoup. Donc, je l'ai à la fois connu comme le lieu d'enfance, comme un lieu de transmission, parce que mes parents et d'autres générations précédentes étaient nés dans cette vallée de la Loire, mais aussi comme une transmission médiatisé en permanence par l'école, c'est par l'école primaire en particulier. Il faut bien voir ce qu'étaient les écoles primaires, et ce qu'elles sont peut-être encore, je l'espère bien. Elles assurent cette transmission, mais à l'époque en tout cas, très inscrite dans un lieu. On a beaucoup dit que l'école primaire française avait éradiqué les traditions, les langues régionales, etc. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce qu'on transmettait la bonne langue, les événements qui concernent l'histoire de la France, mais on transmettait beaucoup de choses sur le patrimoine local. Donc j'ai vu cette transmission aussi comme ça.
D'accord, alors finalement, donc Savenières et son école primaire nous auront donné une académicienne. La région nous a aussi donné un grand vin blanc.
Exactement.
Le Savenières, vanté par Kurnonski comme l'un des 5 meilleurs vins blancs du monde, je crois.
Oui, je pense que sans particularisme chauvin, je pense que c'est un très grand vin blanc.
Méconnu.
D'ailleurs, il est connu dans le monde et il a fait de grands progrès. Il y avait une grande quantité de petits vignerons avec des vins parfois inégaux. Pour toutes sortes de raisons, j'essaie d'expliquer. Parce qu'ils sont soumis aux aléas du climat, à des dépenses qu'ils ne peuvent pas toujours affronter. Il faut vendre, etc. De grands domaines ont repris tout cela. La coulée de Serran, qui est le plus connu, mais le domaine aux moines, qui est un très grand domaine, le château des Pirées, le château du Clausel, ce sont de grands domaines. Grand, non pas par la surface, quelques dizaines d'hectares, mais par la pratique, par la technique du vin, par l'ouverture au monde. Ce sont des vins qui atteignent des niveaux vraiment tout à fait remarquables, qu'on peut comparer sans aucune hésitation à des Meursault, à des Chablis, à des grands vins blancs français.
Alors, vous avez la particularité de participer ou de diriger un festival qui s'appelle le Festival Terre à Vin, Terres à Livres. À Savenir.
À Savenir.
Vous nous en dire quelques mots.
Alors, ce festival va fêter en septembre prochain son 10e anniversaire, donc depuis 2004. Et nous avons le principe de faire un festival consacré à un, voire deux auteurs. Mais alors, ces auteurs sont accueillis pendant plusieurs jours, sont entourés, sont promenés, on les emmène dans les châteaux, dans les vignes, on leur fait évidemment déguster les meilleurs vins, et ils rencontrent des lecteurs qui, pendant toute l'année, se sont réunis, ont fait des groupes de lecture. Donc, ils arrivent dans... C'est l'opposé, au fond, d'un grand salon où des dizaines...
Anonyme. Oui.
Voilà. Oui. Plus anonyme, forcément. Ils ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs défauts. Là, les auteurs sont choyés. Et nous avons eu la chance d'avoir deux mes confrères de l'Académie qui ont bien voulu venir honorer de leur présence ce festival. Dominique Fernandez, il y a 3 ans, et Amine Malouf, il y a 2 ans. Et le festival n'est pas entièrement consacré aux académiciens français, mais nous en aurons certainement d'autres, j'y tiens.
D'accord. Alors, les auteurs, justement, sont à proximité, cette fois-ci, du public, je suppose.
C'est-à-dire qu'ils sont à proximité du public, ils habitent sur place, ils vont rencontrer, par petits groupes ou par ensemble plus important, des lecteurs qui sont au nombre de 100, 150, 200, sur 2 jours, 2 jours et demi. Et
il y a des lectures. Donc on a une vraie proximité.
Oui, une vraie proximité. Ouais. Des lectures sont organisées autour de leur œuvre et... Un soir, un concert leur est offert qui est en rapport avec leurs préoccupations. Quand Dominique Fernandez était notre hôte, nous avons eu de magnifiques hôtes contre, sopranistes, qui ont donné un très beau concert. Et quand Amine Malouf était notre hôte, son neveu Ibrahim, qui est un merveilleux musicien qui mélange les musiques d'Orient et d'Occident, est venu faire un concert.
D'accord. Et le vin dans tout cela ?
Alors le vin est présent, je dois le dire. Avec modération, mais il est présent de bout en bout au festival. Vous savez, on pratiquait beaucoup, on déguste ce vin à toutes occasions. On a toujours une occasion pour le déguster. Donc, nous faisons une pause à 5 heures, nous faisons un buffet, ou nous faisons un apéritif, où nous convions des personnes de la région. Et donc, les meilleurs vins sont... Et je dois remercier ces domaines qui... nous aident beaucoup en venant présenter leur vin, ce qui est pour nous très intéressant d'avoir évidemment cette présence de leur grand vin.
Oui, alors justement, parlons un peu de vin, parce que nous sommes un peu recentrés, faute de temps, de toute façon, sur le Val-de-Loire, évidemment.
Bien sûr, mais...
Mais c'est, le Val-de-Loire représente le troisième vivier viticole de France, si je puis dire, le troisième bassin viticole. Il est moins connu que le Bordeaux ou le Bourgogne, mais cependant, il gagne incroyablement être connu parce qu'il a une diversité extrême entre le melon de Bourgogne, du Muscadet et le Sancerre en passant par le vin d'Anjou, le Savenir, justement les Coteaux du Layon, enfin partout. Et puis les rouges, le Chinon,
le Chignon, le Sambure Champigny, etc.
On trouve, je crois, trace du vin à Orléans dès l'Antiquité. Hein.
Oui.
Roger Dion, l'historien du vin, explique que les Romains l'importaient.
C'est cela.
Avant de l'interdire parce qu'il était trop bon et leur faisait de la concurrence.
C'est merveilleux ça. Alors, les Romains ont découvert que les Gaulois aimaient beaucoup le vin. Et qu'ils en avaient le goût, la pratique, mais ils n'en cultivaient pas du tout. Ce sont les Romains qui ont apporté la culture du vin, et on peut retrouver ces traces, en effet, à plusieurs points du Val-de-Loire. Et ensuite, c'est l'Église qui a aidé à la diffusion et à la culture du vin. Les moines
pour
se sont installés. Pour l'Eucharistie. Donc le vin est devenu un élément fondamental de la nouvelle culture qui était à la fin de l'époque romaine, avec la christianisation progressive de la Gaule. Et les Vikings eux-mêmes ont joué un rôle. En quoi ? C'est que quand les Vikings, vers le 8e siècle, 9e siècle, sont apparus avec leurs incursions dévastatrices dans l'estuaire où ils remontaient la Loire, les moines sont partis avec leurs plants de vigne, leurs reliques et sont allés s'installer beaucoup plus haut sur la Loire. Ainsi, les vins de Chablis sont dus à la... jusqu'à Chablis, c'est l'invasion viking. Ah, et en tout cas, tout le long de la Loire, assez loin en avant dans la Loire, les moines, fuyant les vikings, ont fait des plantations de vignes.
D'accord. Et alors, quels sont, pour en revenir à vous, donc, quels sont vos vins préférés ?
Alors, quand je dis...
En Val-de-Loire.
Oui, alors, j'ai une préférence, et c'est curieux d'ailleurs, parce que c'est vrai, je pense que c'est un fait de lié à mes origines, au temps que j'ai passé dans cette région, à ce qu'aimaient mes parents, etc. Les vins blancs me sont très chers. Et dans cette vallée de la Loire, où il y a, comme vous l'avez dit, d'excellents vins rouges, en particulier Bourgueil, ou Saumur-Champigny, oui. Ou Chinon, qui a lui aussi remonté spectaculairement. Le Chinon, à une époque, était devenu un peu... Oui, mais là, vraiment, il a remonté, c'est oui. Un vin splendide,
on a
maintenant.
Le vin du domaine de la Grille, le Chinon du domaine de la Grille, qui est une bouteille magnifique,
ils sont magnifiques.
Bouteille de champagne...
Et les couleurs du Chinon sont merveilleuses. Il y a cette espèce de violet profond dont Rabelais a très bien parlé, de la robe du Chinon. Donc, mes goûts vont vraiment vers les vins blancs. Et si on va depuis Quincy, en passant par le Maine tout salon, jusque dans les Muscadets, Gros Plan ou Sèvres-et-Maine, etc. Et mais le Savenière, pour moi, j'y suis attachée. J'ai l'impression, quand je bois une gorgée de Savenière, de retrouver à la fois le village, les vignerons que j'ai connus, dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des hommes simples, avec de petites propriétés, mais pleins d'une finesse, d'un humour, d'un art de vivre. Très frugal, mais en même temps très heureux. Je ne dis pas du tout que c'est pas pour cela qu'il faut que les gens soient mal payés.
Non,
c'est pas ce que je veux dire.
Malheureux.
Je parle de frugalité, pas de misère. C'est tout à fait autre chose.
Hein,
dont les besoins étaient relativement limités et qui étaient heureux à l'intérieur de ces besoins. Donc, j'aime le Savenière pour une raison très simple. Le plan est un chenin.
Alors, il n'y a pas d'entrée de chenin dans votre dictionnaire.
Alors, non, le chenin apparaît à 20. Donc,
oui,
je développe autour de chenin. Il n'y a pas d'entrée chenin. Vous savez, c'était crucifiant. Hein. Comment faire pour mettre toutes les entrées? Je voulais, j'en ai 300 déjà. Alors, donc, j'ai au détour de quelque chose pu parler. Je ne vais pas faire une entrée. Alors, le Savenier a cette particularité d'être récolté sur la rive nord de la Loire. Donc, sur cette rive nord, donc face au sud, et sur des sols, sur des collines, un sol schisteux, et ce schiste donne ce goût de minéralité qui est... Vous savez, je n'ai pas fait d'études d'œnologie, petit à petit, j'essaie de m'initier, sans tomber dans la pédanterie, mais un vocabulaire qui puisse m'aider à dire ce que j'ai à dire. Parce que souvent, je dis, c'est pas trop, c'est bon. Mais ce goût de minéralité qui est extraordinaire dans le Savenière, parfois surprend. Il y a par exemple un domaine aux moines de 1999 des Dames Laroche, qui est franchement très, très minéral. Et puis, il peut s'adoucir, s'enrichir, se velouter, sans jamais... Ce n'est pas un vin d'Anjou, le Savenière est une catégorie à part, sans jamais aller vers les vins d'Anjou, vers les Coteaux du Layon, qui sont très bons, mais qui vont
beaucoup
vers des vins
souples,
plus moelleux, plus souples. Mais là, on a une grande variété de vins qui sont parfois à boire rapidement, et d'autres qui sont des vins de garde. Maintenant, on les conserve sans trop les chaptaliser, ce qui a été un moment le grand... J'ai donc une entrée chaptale.
Oui.
À propos de la fameuse pagode de Chanteloup, qui est un endroit magnifique, un château qui a disparu en Touraine, et reste plus que sa pagode étrange, rachetée par Chaptal, qui a installé ses cultures de betteraves pour le sucre,
oui.
Et on appelle donc chaptaliser le fait de sucrer pour remonter le niveau de l'alcool.
Oui,
et
oui,
maintenant,
ce sont
des pratiques voilà, qui sont extrêmement réglementées. Et vraiment, ces vins sont vendangés, souvent selon la technique des plusieurs passages, donc avec une très grande science. Et moi, je suis admirative de l'art du vin, mais je crois que nous avons à l'Institut quelqu'un qui en est le grand...
Avec Jacques Puiset.
Avec, bien sûr, qui est notre grand connaisseur de ces questions. Mais je pense que le vin est à lui sur une civilisation parce que, vous savez...
Et Jean-Robert Pitt, d'ailleurs, à l'Institut.
Et Jean-Robert Pitt, bien sûr, qui est à l'Institut. Et nous avons... C'est une civilisation à soi seul parce que le paysan qui sème le blé, qui le récolte, ce n'est pas lui qui va le moudre, ce n'est pas lui qui va cuire les pains, ce n'est pas lui qui va inventer l'art de la pâtisserie. Alors que le vigneron qui... J'ai trouvé des miniatures du Moyen-Âge qui sont... émouvante parce qu'on voit entre deux rangs de ceps très bien taillés un paysan, la côte plus ou moins retroussée, qui, avec un arrière extrêmement médiocre.
Oui, oui. L'arrière étant l'ancêtre de la charrue.
Voilà, c'est une simple lame qui va tout droit, qui n'a pas de socle versant, voilà, qui continue tout droit. Et devant, il y a le bœuf qui tire le tout, il va labourer, il va tailler, il va surveiller ses vignes, il va craindre la grêle et, et les rosées dangereuses, et puis il va le récolter, etc. Le récolter, à quel moment ensuite le faire fermenter, le conserver. Donc le vin de bout en bout est entre les mains du vigneron, de bout en bout, depuis le sol jusqu'à nos verres.
C'est d'ailleurs ce que dit Jacques Puisé, pour en revenir à lui, qui a fondé l'Institut du goût à Tours, je crois.
Oui.
Où il revendique, enfin il demande en fait que les produits aient, je crois, alors pour parler un peu trivialement, la gueule du producteur qui les a
mais
créés.
C'est vrai, voilà. Mais c'est vrai. Et c'est une particularité très intéressante et qui... Par moments, je me dis que j'ai bien fait de fonder ce festival Terres à vin, terres à livres, car il y a des choses analogues entre le processus qui va de la langue jusqu'au livre et le processus qui va de la terre jusqu'au verre, en quelque sorte.
Absolument.
Et le jour où j'ai découvert que Gutenberg, cherchant à inventer une machine qui permettrait d'imprimer, s'est inspiré des pressoirs. Les premières presses à imprimer, c'est de pressoir, pas de Val d'Anjou, mais d'Alsace. Et c'est le même système, c'est-à-dire la vis qui fait tourner. Donc que la presse et le pressoir soient la même chose, c'est quand même exaltant.
Surtout pour un écrivain. Voilà. Mais c'est remarquable, effectivement. Alors, peut-être s'il y a des informations pratiques à donner sur ce festival, y a-t-il
alors,
un site internet?
Alors, ce festival, un site internet, festival Terres à Livres, Terres à Vins de Savenières. Il se tient tous les ans, le troisième week-end de septembre.
D'accord.
Voilà. À une semaine près, à cause des journées du patrimoine. Quand les journées du patrimoine, comme cette année, sont le troisième week-end, cette année, nous serons le dernier week-end de septembre. Mais normalement, c'est le troisième.
D'accord. Et comment les auditeurs de Canal Académie peuvent-ils s'y rendre? Ils s'inscrivent? Ils viennent librement?
Ils s'inscrivent. Oui. Ils viennent librement, mais ils peuvent s'inscrire pour les soirées de lecture et de concert, parce que là, il faut retenir, le nombre de places est limité. Et Savenir est à une dizaine de kilomètres d'Angers. Donc on va prendre le train à Angers,
oui.
Ou en voiture bien évidemment jusqu'à Savenières. Et je signale d'ailleurs, sans aucun intérêt économique dans la région, que d'exquises chambres d'hôtes ont été aménagées dans plusieurs propriétés, et vraiment c'est un vrai charme, vraiment.
Ah oui.
Donc ça c'est très important, parce qu'on est sur place, on est logé dans des endroits qui sont aménagés avec beaucoup de goût, et on peut faire des promenades. Il y a un petit restaurant qui vient de s'ouvrir, il s'appelle le Chenin Blanc, et qui va permettre d'y être pendant 3 jours, vraiment dans un lieu...
relaxant et
voilà,
apaisant.
Qui concentre les choses autour du vin et des livres.
Oui, alors il faut y aller avec ce dictionnaire amoureux de la Loire, donc de Daniel Salnave, parce que vous pourrez notamment, chers auditeurs, marcher sur ces traces, parce que on retrouve dans ce dictionnaire, on en parlait hors antenne, beaucoup de vous, et notamment beaucoup de votre enfance. C'est-à-dire des petites fritures de poissons, le jardinage,
oui.
Le pressoir, oui. Et les vignes de votre grand-père
dans le Côteau du Lyon.
Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette enfance, justement, de ces fritures de poissons
Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je suis né là, il faut bien être quelque part. Il se trouve que je suis né là, deux parents qui étaient angevins, et comme je l'ai dit, instituteurs et très attachés à la foire, leur école, et à leur région. Et je le dis dès l'entrée du livre, la Loire, c'était à la fois les cartes magnifiques, les cartes de géographie de Vidal de la Blache, à qui je rends un grand hommage. Il y a une entrée Vidal de la Blache dans mon livre. Et puis c'était la Loire qui coulait au bas du village. C'est-à-dire cette présence permanente du fleuve. Mais c'est une présence qui assure, c'était fini le temps de la batellerie, mais qui assurait encore, plutôt c'était la pêche ou les promenades, pas le grand tourisme encore, mais c'était fini le temps de la Loire comme axe de circulation, mais elle est présente, on pense sans arrêt, que va-t-elle dire, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle est en crue? Quelqu'un revient des ponts de la Loire, dit j'ai vu des bouchons, il va y avoir des bouchons d'écume, donc elle est en train de monter. Et quand elle monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fermes qui sont tout autour, ou les maisons, sont menacées. Moi j'ai eu pendant longtemps, dans ma famille, des meubles qui étaient blanchi jusqu'à 1,20 m à peu près du sol, parce que mes grands-parents ou arrière-grands-parents n'avaient pas pu les monter à l'étage quand l'eau montait, et ben les meubles trempaient dans l'eau et ensuite séchaient. Donc j'ai été initié indirectement à son histoire, à travers certainement l'école et l'enseignement de mes parents, puisque j'étais dans la classe de ma mère jusqu'à la 6e, mais aussi aux façons de parler, aux façons de penser, aux façons de dire, aux façons de manger, à une attention à la fois au paysage. C'est un paysage extrêmement humanisé. C'est une nature dont chaque point a été travaillé, retravaillé par les hommes à travers des siècles, et on le sent. Même si on est un enfant qui n'est pas, qui peut s'amuser et pas penser à cela, en fait, ça rentre en vous.
Oui. Bah, il y a notamment la question du tuffeau, là, pour le coup, qui a été formé.
Qui est d'ailleurs plus blanc que jaune.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est la lumière du soleil.
Voilà, c'est ça qui le. Il est doré, en fait, par la lumière du soleil, c'est très vrai. Il est blanc et il blanchit encore plus. À l'extraction, il est jaune pâle. Oui. Mais
et il est tendre, surtout.
Il est tendre, alors ce qui pose des problèmes, parce qu'il s'use, parce qu'il s'imprègne d'humidité, mais il est tendre, donc il est accessible à la construction, à la sculpture, mais il demande, en effet, un entretien. Alors, au fur et à mesure qu'il sèche, il blanchit.
Et il durcit.
Il durcit.
Oui. Alors, c'est fantastique, parce qu'on lui doit les abbayes, on lui doit les châteaux de la Loire, on lui doit aussi les caves et les habitations troglodytiques.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est... Voilà. Quasiment un élément essentiel de ce patrimoine de la Loire, encore une fois.
C'est-à-dire que la Loire a fourni, pourquoi cette civilisation est si ancienne et pourquoi elle est si riche, c'est que Vidal de la Blache le dit très clairement, parce que c'est merveilleux chez Vidal de la Blache. Il ne faut pas oublier que son tableau de la géographie de la France est le premier volume de l'histoire générale de la France de Ernest Lavisse. Lavisse a voulu faire ouvrir son panorama de l'histoire de France par un panorama de la géographie. Et cette géographie est explicative, c'est de la géographie humaine, c'est ce qu'on adore. Donc Vidal de la Blache montre bien comment le dépôt des alluvions tout le long de la Loire, comparable en cela au Nil ou d'autres grands fleuves nourriciers, a attiré les populations qui sont installées, qui ont habité là. Mais le dépôt des alluvions, c'est sur un sol qui... parfois, est un sol calcaire. À partir d'Orléans, on va traverser. Le Loiret est une résurgence de la Loire. La Loire a disparu dans les sous-sols et elle remonte. Donc, ce calcaire a fourni... Il est aride pour la culture, sauf quand il se recouvre petit à petit de dépôts végétaux. Mais il fournit la pierre, il fournit l'habitation. C'est merveilleux de voir. J'étais récemment à Fontevraud, il y a quelques jours, et près de Fontevraud, il y a un village troglodyte qui s'appelle Turcan, qui est extraordinaire. Je ferai une petite observation qui traverse tout mon livre.
Absolument.
C'est qu'on l'appelle village Troglo. Et je pense que, c'est pas seulement parce que je suis à l'académie, je trouve détestable qu'on dise village Troglo. Troglodyte est un mot qui existe, j'ai connu des
gens
autrefois qui savaient très bien employer le mot troglodyte et qu'ils ne simplifiaient pas en Troglo. Bon,
mais
c'est merveilleux, il y a toute cette façade à partir de Fontevraud jusqu'à Caen-Saint-Martin, c'est-à-dire sur l'estuaire de la Vienne, qui vient rencontrer la confluence de la Vienne et de la Loire, avec ses façades, tantôt très rudimentaires, tantôt très ornées, très sculptées, à l'intérieur desquelles on peut habiter, à l'intérieur desquelles on fait des caves, et on fait pousser des champignons.
Des champignonnières, oui, c'est tout à fait vrai. Les fameux, certains des fameux champignons de Paris qui
poussent
fameux, en fait.
Évidemment, qui poussent dans les champignonnières, et où on mûrit des vins, qui sont des vins comme par exemple les Créments, tous ces vins champanisés de la région de Saumur, qui sont excellents. Et je dis souvent qu'il vaut mieux boire un excellent Crément ou un excellent vin de Saumur champanisé qu'un médiocre champagne de supermarché.
Absolument.
Encore qu'il y en a de très bons maintenant.
Oui, mais on fait effectivement de délicieux Créments, de délicieux Vouvray pétillants.
Exactement, Vouvray pétillants.
Remarquables.
Absolument exquis.
Qui sont notamment sans ajout, sans beaucoup d'ajout de sucre, qui nous donnent des choses, des brutes de brutes, des extra brutes.
Exactement.
Qui peuvent concurrencer le champagne sans problème.
Mais ce qui est étonnant, c'est comment, par exemple, certains savonnières, un peu anciens, sont légèrement perlants. C'est-à-dire qu'ils surprennent légèrement celui qui les goûte. Et puis,
alors perlant, pour les auditeurs de Canal Académie, ça veut dire très très légèrement pétillant, qui crépite
très
un peu sur la langue.
Voilà, qui pique un peu la langue, voilà. Et c'est étonnant.
Alors à quoi est-ce dû, tiens, d'ailleurs?
Je ne sais pas. Je vais me faire gronder par mes amis viticulteurs qui m'ont dit comment on t'a expliqué si souvent. Et en tout cas, c'est une conséquence de cette émergence à travers ces terrains si particuliers, de la manière dont on le récolte, dont on le fait mûrir, dont on le presse et ensuite on le fait vieillir.
Oui. Alors on parle de Savenière, on parle de Crément, etc. Précisons peut-être pour les auditeurs de Canal Académie que tout cela repose sur ce cépage roi un peu de la région de la Loire, qui est le Chenin, donc, avec lequel on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire, on peut faire un vin liquoreux, on peut faire un vin moelleux, on peut faire du demi-sec, on peut faire du sec, on peut faire du pétillant. On peut absolument tout faire avec le Chenin.
Oui, c'est le tronc commun, au fond.
Oui, c'est ça.
C'est le tronc commun.
Et lui aussi apporte avec le tuffeau, peut-être, sa part de l'identité.
Mais c'est très curieux, parce qu'on a une identité qui est géographique, géologique même, forcément. Mais sur cette entité, identité géographique, géologique, se déploient des plans, des pierres, et ne pas oublier l'ardoise non plus, parce que l'autre composant bleue, sur le plan architectural, c'est l'ardoise bleue. Et vous savez que, là, évidemment, le grand lieu de la production depuis le Moyen-Âge, puisque les premiers ont été des abbayes qui ont fait l'extraction de l'ardoise, c'est près d'Angers, les ardoises de Trélazé. Mais les ardoisières de Trélazé ne produisent plus. Et c'est une grande source de grande difficulté pour les propriétaires de maisons ou de châteaux qu'ils veulent restaurer le plus fidèlement possible. C'est que l'ardoise du Portugal ou de Chine n'a pas les mêmes caractéristiques. En particulier, elle n'a pas la même couleur et elle ne vieillit pas de la même manière.
D'accord. Alors, y a-t-il des solutions ? Comment fait-on ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un véritable...
Il y a quelque chose à creuser, là, c'est le cas de le dire.
Ah oui, c'est le moment de le dire. Il faut surmonter cette difficulté et peut-être imaginer, en effet, en tout cas, ces ardoises de Trélazé. Parce que c'est un lieu, comme je le dis, géologique, historique, mais c'est un lieu politiquement et socialement très intéressant. Parce que la Loire n'est pas seulement un long fleuve tranquille d'agriculture et de viticulture, c'est aussi un fleuve d'industrie. Si on va des bassins miniers de Saint-Étienne jusqu'à ceux des coteaux du Layon, auxquels on ne pense plus maintenant, mais qui ont été au XVIIIe siècle, la production d'un charbon avec un canal pour faire emporter le charbon qui a été qu'on extrayait là pour l'emporter ensuite. Donc, la Loire est liée à un certain développement industriel de la première révolution industrielle et un petit peu de la deuxième. Et maintenant, il y a des grands pôles comme à Orléans.
Cosmétique, oui, notamment.
Voilà, du cosmétique. Oui, oui, voilà. C'est Silicon Valley à Orléans.
Exactement, c'est ça. Exactement. Et c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. La Loire, enfin le Val de Loire, ou cette immense région, n'est pas un conservatoire du passé.
Non.
C'est une région en vie. Et en mouvement constant.
Exactement.
Et on est passé, effectivement, du charbon au cosmétique, tout simplement parce que la vie y continue, ce n'est pas muséifié.
Voilà, et la Loire a été, évidemment, à cause du fait qu'elle est navigable assez tôt, disons, en gros, à partir de Rouen, mais un peu plus haut, mais elle est navigable en partie dans l'autre sens, à cause de son orientation, disons, horizontale, puisqu'elle coule vers l'ouest, et que très tôt, par la marine à voile, et ensuite, par le temps de la marine à vapeur, qui a duré au premier tiers ou la première moitié du 19e siècle, a été une source. Il y a le chocolat Poulain à Blois, c'est qu'on pouvait remonter de Nantes jusqu'à Blois le cacao venu des productions exotiques.
Les colonies, oui.
Voilà. C'est ce qui a permis d'avoir cette magnifique entreprise qui était le chocolat Poulain. Donc, se sont développés tout le long de la Loire cette forme de capitalisme des premières industries avec des personnages fascinants.
Oui. Les biscuiteries Lu.
Les biscuiteries Lu à Nantes.
Alors là, qui ont bercé l'enfance d'à peu près tout le monde.
Tout le monde. Et je dois dire que nous avons. Moi, je suis très ému quand, au dictionnaire le jeudi matin, à la pause que nous faisons dans cette séance de travail très rigoureuse, quelques petits Lu circule avec le café de 10 heures. Et le chanvre faisait partie de l'identité de la Loire. Le chanvre était récolté au bord de la Loire, c'était dans des conditions difficiles. Je cite le témoignage d'une ouvrière du chanvre, c'était très fatigant, très dur. Ensuite, on le ficelait par bottes et on le mettait à tremper dans l'eau de la Loire, ce qu'on appelle rouillir. Le mot rouillir n'existe nulle part. Sauf, j'ai noté, chez Saint-Simon, et c'est merveilleux, qui dit « L'abbé Intel resta longtemps à rouillir dans cette petite place ». Ça veut dire en effet que son avenir devait être extrêmement...
Un peu compromis.
Plus qu'un peu. Donc le chanvre rouille, et en rouillissant, dégage une odeur que certains qualifient de nauséabonde. Disons qu'elle est forte. Mais après tout, peut-être que l'odeur d'une ferme peut être qualifiée par certains de nauséabondes et par d'autres de tout simplement animal. Et Julien Gracq parle très bien de son enfance où on sentait cela. Et ensuite, le chanvre, les fibres sont tissées. Et à Angers, l'industrie du chanvre phénoménale s'est développée, la maison Bessonneau, qui fournissait le monde entier en toile de tente, filets, ensuite à divers domaines de l'industrie. C'est dans les années 50-60 que s'est arrêtée l'industrie du chanvre. Mais les écologistes ont réintroduit le tissage du chanvre pour les vêtements, et je dis tout de suite à nos auditeurs que le chanvre, c'est pas un silice, c'est pas de la bure, c'est pas quelque chose qui gratte la peau, rien n'est plus doux. Une chemise de chanvre, c'est un délice à porter. Un t-shirt en chanvre. Et Charlemagne portait des chemises, certainement en chanvre, puisque c'est lui qui a vraiment donné toute cette extension au tissage du chanvre, allez-y, achetez des t-shirts. Le champ, c'est délicieux à porter.
Oui. Alors, on sent que vous avez vraiment cette passion donc pour la Loire en général, le fleuve notamment, auquel vous consacrez plusieurs entrées. Alors, vous le qualifiez, ou vous évoquez en tout cas les diverses appellations, fleuve femme, fleuve mâle, fleuve conquérant, dites-vous, fleuve dragon, disaient les Gaulois. Vous en retenez surtout, vous avez l'impression de cette Loire, la force et la majesté.
Ah, oui,
que d'autres
oui.
en retiennent plutôt un côté un peu plus, plus mièvre, si je puis dire.
Oui. Alors,
que représente pour vous donc, ce fleuve gigantesque auquel vous consacrez, encore une fois, au moins 3 ou 4 entrées différentes?
Oui. Le sentiment très profond que j'ai, c'est que si j'avais pu donner un sous-titre à cet ouvrage, je l'aurais emprunté à Ragon, qui a un très beau livre qui s'appelle Matisse, virgule, roman. Moi, je l'aurais appelé Loire, virgule, roman. Pour moi, la Loire est un personnage. Ce qu'on appelait un actant autrefois dans la théorie de la littérature, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un vrai personnage. C'est un personnage qui a donc une identité, une histoire, une physionomie. Si vous, sans tomber dans de mièvres métaphores plus ou moins anthropomorphiques, si vous partez du Mont-Gerbier de Jonc et que vous suivez tout le parcours de la Loire jusqu'à Nantes, et je ne peux pas m'empêcher de le dessiner de la main sur la table du studio, parce que c'est cette magnifique courbe, vous avez au début une source, vous avez un fleuve qui se bat dans des paysages extrêmement violents, contre des rochers qui traversent des gorges, ce qu'on appelle des voûtes, et les voûtes ce ne sont pas des voûtes au sens de quelque chose qui fait un arc de cercle au-dessus de votre tête, une voûte c'est volta, c'est une courbe, donc il tourne sur lui-même parce qu'il a traversé des roches très dures, et il va un peu s'apaiser, il va entrer en rivalité avec l'Allier, au point que certains pensent que est-ce que c'est l'Allier, est-ce que c'est la Loire à tel endroit ? On a plus ou moins la preuve que c'est bien la Loire. Et plus son cours avance, plus la dénivellation s'apaise, plus elle s'élargit, jusqu'au moment où elle rejoint aux alentours de Gien puis Orléans, le cours d'une ancienne Loire, d'une Loire des temps géologiques, et s'incurve vers la gauche. Et là devient un personnage en majesté. Un adulte, homme ou femme, ou les deux, en majesté, qui a ses colères, ses attendrissements, ses violences, ses moments rusés, où elle disparaît complètement, et c'est là qu'elle devient le plus dangereux.
Oui.
Quand nous étions enfants, on nous disait,
ne
va pas dans
noyés,
ces petits trous,
hein,
mais bien sûr, ne va pas dans les trous d'eau, ne marche pas sur les pointes de sable, on l'appelle des culs de grève, qui sont des endroits très dangereux parce que le sable flotte entre deux eaux. Et un enfant qui, disparaît. Il s'enfonce et disparaît. Donc, quand on la croit douce et tout, elle cache bien son jeu. Et elle arrive à ce moment-là à son estuaire, l'estuaire qui est un moment extraordinaire. Et d'ailleurs, je réfléchis un peu, qu'est-ce que c'est qu'un estuaire, au fond? Si on reprend la métaphore et la comparaison du fleuve avec une existence, c'est le moment où l'existence va vers sa fin. Et la Loire va se jeter dans l'océan, mais elle ne va pas disparaître tout de suite, puisque à 15 ou 20 km de distance des côtes, on a encore la trace brune des alluvions de la Loire. Donc elle résiste avant de disparaître. Et c'est une belle image. C'est pour moi, un fleuve est une leçon de vie. C'est curieux. Il nous enseigne beaucoup de choses. Donc cette estuaire est une région magnifique. Il est assez menacé par des emprises industrielles qui ont fait disparaître des espèces végétales ou animales. Il est menacé aussi par l'ensablement. À partir de Chalonne-sur-Loire, qui est la limite ouest du classement UNESCO, on est encore à 80 km et plus de l'océan. Et là, la Loire commence à s'ensabler. Certains sont très pessimistes, pensent qu'elle va finir, comme certains grands fleuves du monde, dans un estuaire d'une myriade de bras.
Ah oui.
À partir de là.
Comme
donc, il y a un vrai problème.
Sud,
oui, c'est cela. Oui.
Entendu, oui. Alors, espérons que ce ne sera pas le cas.
Non, c'est-à-dire que ça suppose des travaux.
De notre vivant,
ça suppose aussi qu'on ne soit pas trop. Il faut ne pas avoir une vision trop autoritaire, mais il ne faut pas avoir une vision trop irénique à la manière de certains mouvements écologiques qui voudraient qu'on ne touche à rien, que l'idée de toucher à la Loire, c'est sacré. Oui, mais si on n'y touche pas, il faut la protéger.
Bien sûr, la nature est le fruit aussi du travail de l'homme. C'est-à-dire
exactement.
Que même, c'est vrai pour la chasse,
je pense que
les
certains
espèces
autres
survivent
sont prêts.
Grâce à la chasse. Et effectivement, oui, il faut trouver ce juste milieu en fait, entre l'industrialisation à outrance et l'écologisme à outrance. Une autre chose caractérise également votre livre, votre dictionnaire amoureux de la Loire, c'est le rejet des snobismes. Alors ça transparaît également de page en page. Il y a ce mot ligérien qui me fait sourire depuis le début. Alors, pouvez-vous nous dire, par exemple, pourquoi ligérien ne vous déplaît ?
Mais c'est-à-dire que je suis très sensible à un ton. Et je pense que parfois, certains mots donnent un ton un peu prétentieux à quelque chose dont la nature profonde est de ne pas l'être du tout. C'est un monde qui avait ses défauts. Je ne veux pas du tout le magnifier et considérer que c'était une civilisation qui avait ses défauts, ses limites, qui a connu aussi de grands épisodes historiques violent. La Loire a quand même été a séparé en deux. La Vendée et le Pays Chouan, elle a été le théâtre des noyades de Carrier à Nantes. Elle a, bien auparavant, elle a connu aussi les guerres de religion, etc. Mais un peuple qui s'était établi sur ses bords avait une certaine façon de vivre, un art de vivre, d'où était exclu tout snobisme ou toute prétention. Et le mot ligérien ferait rire les deux vignerons auxquels je dédie cet ouvrage.
Oui, c'est exact.
Qui mais sont morts maintenant.
Le mot ligère.
Alors, ligère, c'est le mot latin qui a donné Loire et qui semble latin gaulois. C'est très difficile de savoir à ce moment-là. Peut-être un mot gaulois derrière, qui voudrait dire le limon. Ce serait la limoneuse. Et c'est bien. Oui. C'est bien parce que c'est beau pour un fleuve, elle apporte. Parce que le limon, c'est la richesse.
Forcément, c'est la vie.
C'est la vie. Absolument. Donc c'est beau. Ça veut dire la nourricière, c'est comme le Gange, qu'on appelle le Gange, mais que les Indiens appellent mer, parce qu'il nourrit, et le Nil aussi. Donc c'est un fleuve qui est maternel et paternel à la fois. Moi, je me refuse absolument à entrer dans les discours du style « La Loire a des caprices, elle est bien femme. » Je ne suis pas particulièrement...
C'est de la poésie à...
Oui, je pense que c'est... Voilà, je pense. Vraiment, elle a des traits de caractère, des deux sexes, et elle a tous les deux. Et surtout, elle a une forte personnalité, c'est certain.
Alors, vous rejetez également les snobismes dans la représentation. Vous rejetez, je crois, à juste titre, encore une fois, ce snobisme, peut-être, de Max Ernst, qui a peint la Loire, et vous lui préférez des artistes plus figuratifs ou pré-impressionnistes, un peu comme William Turner, qui est en fait le peintre des ciels et des lumières, qui est un artiste fantastique, un Anglais. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de vos goûts en matière de peinture ?
Oui. Je suis contente que la vignette de couverture ait été empruntée à Valoton, dont on a pu voir récemment une magnifique exposition, où ce tableau figurait, qui rend parfaitement justice à la Loire, parce qu'il y a cette tonalité blonde des sables, il y a peu d'eau, et puis surtout, il y a ce qu'on appelle une boire, c'est-à-dire un bras un peu mort, qui est parallèle au bras principal, mais il y a aussi des ombres, l'ombre des feuillages, l'ombre des arbres, et elle rend parfaitement hommage.
Une petite barque plate aussi.
Et une petite barque, avec le pêcheur, la petite barque qu'on appelle la plate, et qui est la barque du pêcheur, mon père en avait une, et qui est tout à fait typique, symbolique des paysages de Loire. Et je n'aime pas beaucoup le tableau de Max Ernst parce que je le trouve un peu facile, et pas si bien peint que ça en plus. Et j'aime beaucoup Turner parce que Turner a saisi le sens de la lumière de Loire, et il y a découvert quelque chose à quoi on ne pense pas. Il y a un orientalisme en quelque sorte chez Turner dans sa représentation de la Loire, parce que la Loire coule vers l'ouest, donc ses nuages sont absolument irradié par le soleil couchant, avec les reflets dans cette lumière et dans cette eau, et Turner l'a parfaitement saisi, ça. Du coup, là, la ville de Tours ou d'autres villes surgissent comme ça dans une brume dorée ou rouge, et qui rend bien justice à cette lumière, absolument, qui n'est pas seulement pâle et douce.
Oui, et qu'il a finalement donné au ciel ses nouvelles lettres de noblesse, après, par exemple, Caravage.
Exactement.
Il a vraiment renouvelé la vision du ciel.
Exactement. Et quand Oscar Wilde disait qu'avant Turner, il n'y avait pas de brouillard sur la Tamise, bien, je pourrais qu'avant Turner, on ne savait pas que la Loire pouvait être cette Loire orientale aussi. Oui. Et plus on se rapproche de Nantes, plus elle l'est aussi, parce qu'on pense que Nantes est le grand port, et le port des Antilles, et le port des aventures.
Et on se dirige tout droit vers l'aventure, effectivement,
vers
l'exotisme. Oui. Alors vous, autre snobisme, il y en a plusieurs, donc les auditeurs qui apprécient justement l'authenticité seront ravis, parce que vous critiquez également cette petite tendance du tourisme de masse et des agences commerciales à récupérer un peu un patrimoine qui est le nôtre, et sinon peut-être à le travestir, ou à le récupérer, ou à le caricaturer, c'est-à-dire en faire une espèce de cliché de carte postale. Vous citiez Fontevraud, où effectivement Fontevraud, qui est une magnifique abbaye, qui a été prison, qui a un passé imposant, est aujourd'hui parfois, selon l'agence qui s'en occupe, réduite vraiment à quelques clichés. Et on a l'impression que les gens, les commerciaux, regrettent presque ce passé imposant, magnifique, et qu'ils voudraient simplement exploiter les murs. Quoi. Et...
C'est très compliqué cette question, parce que c'est vrai, tout commence quand Prosper Mérimée devient inspecteur des monuments nationaux. Il va entreprendre, il est jeune, il ne connaît pas bien cette question, il va se former, il va voyager. Et il est, même s'il a fait des erreurs, c'est tout à fait normal, mais par exemple à Fontevraud, il pense que c'est un baptistère, c'est une cuisine, mais ce n'est pas le problème. Il est à l'origine de cette idée qu'il faut conserver les monuments du passé, les identifier, les entretenir, les restaurer. Et ça, c'est une voie magnifique. Et on peut dire, vous avez pris l'exemple de Fontevraud, il y en a plusieurs autres, où les restaurations sont absolument parfaites. Mais, le problème c'est que, à partir de là, plusieurs voies vont s'ouvrir. La voie d'un tourisme de masse que je ne le prends pas au sens négatif, il est tout à fait normal que ce patrimoine soit offert à la visite, à la contemplation, etc. Mais on va essayer de le monnayer, on va parfois l'affadir, on va le transformer en petit parcours en famille avec produits locaux. Et puis surtout, on va plaquer un discours moderniste qui n'a pas sa place, n'a pas lieu d'être, comme si on avait peur du passé. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'accommoder, il faut le rendre agréable, il faut le rendre humoristique. Mais moi, ça ne me donne pas envie de sourire ou de rire, j'ai envie de comprendre les lieux. On a parlé de Fontevraud parce que j'en reviens, et donc je vais avoir l'air de m'acharner sur cette abbaye, mais il y aurait beaucoup d'autres endroits dont on pourrait parler. La manière dont depuis 2 ans a été faite la signalétique et la présentation de l'abbaye au public ne me convient pas, parce que on a voulu faire une signalétique à base d'aluminium et de petites pancartes roses. Je pense que ce rose est très agressif sur ces murs de tuffeau, parfois blancs quand ils sont restaurés, parfois plus sombres quand ils sont encore tachés d'humidité ou de mousse. Donc je pense que ça ne convient pas du tout. Et on a pris l'habitude aussi, année après année, d'y faire des installations. Comme il y avait un grand réfectoire, on a fait une machine à manger, etc. Et pour ma part, je dis ça en toute simplicité aussi, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas aller dans ce sens-là. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On a mis actuellement à Fontevraud, il y a des grands animaux dans une espèce de matière plastique de couleur vive à l'intérieur du cloître.
Ça évoque Jeff Koons à Versailles.
C'est une installation. Ouais. Voilà. Alors on dit c'est une installation provisoire, elle plaît beaucoup aux enfants. Mais moi je dis, d'abord je ne suis pas un enfant, et ensuite un enfant... Et je le vois bien avec les enfants que je connais, que je fréquente, etc. Il veut autre chose. La phrase d'Alain, le philosophe de l'éducation, c'est « Un enfant veut cesser d'être un enfant. L'élève veut qu'on l'élève. » J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est la même chose. Peut-être qu'un enfant n'a pas besoin qu'on lui montre une grande bête bleue en plastique. Peut-être on peut lui montrer les arcades, la lumière, la manière dont vivaient dedans des moines ou des détenus.
Et ça le fera rêver tout autant.
Et ça le fera rêver tout autant.
Alors, sur ce mot, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous plonger et de vous élever véritablement en lisant ce dictionnaire amoureux de la Loire, pardon, de Daniel Salnave de l'Académie française. C'est un ouvrage vraiment, donc 900 pages, vous avez vraiment de quoi lire. C'est magnifiquement écrit, c'est exhaustif à un point que l'on n'imagine pas, puisque on passe de Rabelais en passant par l'industrie, la nature, le vin, jusqu'à des mots inconnus, enfin des mots en tout cas oubliés, comme quenio, qui veut dire les enfants, justement, on y revient. Il vous permettra vraiment de découvrir cette merveilleuse civilisation née de l'alliance donc d'un fleuve, d'un paysage, d'une histoire, d'une culture, d'un art de vivre. Riche de 2000 ans d'histoire. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous recommande donc encore une fois Dictionnaire amoureux de la Loire, Daniel Salnave chez Plon. Et pour ceux qui souhaiteraient se rendre au festival Terre de Vin, Terre de Livre.
Terres à Vin, Terres à Livre.
Terres à Livre, pardon. Vous pouvez, en tapant ces mots-clés dans votre moteur de recherche, vous y inscrire pour le mois de septembre ou vous y rendre et trouver toutes les informations pratiques pour la prochaine séance. À bientôt. Thank you.